Bienvenue chez nous sur Radio Armada.
Bonsoir, bonsoir et bien bienvenue en direct ce mercredi à 18h. Pour notre revue de détail, une demi-heure, donc l'actu des réseaux sociaux décryptée pour vous. On va passer en revue donc une semaine d'actualité analysée sous l'angle politique critique de la radio vis-à-vis des pouvoirs en place. Et cette semaine, le thème, eh bien, virus ou bouffon, difficile de choisir en Macronie. On va commencer par notre première rubrique, comme d'habitude, donc avec votre chroniqueur Jean-Pascal, la rubrique argent. Lors de sa visite à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris vendredi dernier, le chef de l'État a été interpellé par deux infirmières sur leurs conditions de travail et le manque de moyens de l'hôpital en pleine crise sanitaire du Covid-19. Monsieur Macron lui a lancé vigoureusement l'une d'elles. Avant même le Covid, on était déjà désespérés. Et pendant ce temps, une autre soignante déplorait son tour. Sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. On est désespérés. On ne croit plus en vous. Le chef de l'État a tenté de répondre. Moi, je ne fais pas de promesses. Et quand j'en fais, je les tiens. Comprenne qui pourra. Eh oui, cher président, vous n'y couperez pas. Ils ne veulent pas de promesses, ni de discours, ni de petites phrases. Ils veulent des moyens, des sous. C'est quand même pas compliqué. Connaissez-vous les CFD ? Ben, ce sont des instruments boursiers complexes, mais qui présentent un risque élevé de perte de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 75% des comptes d'investisseurs dans ce sens perdent de l'argent, c'est des particuliers, hein, investisseurs particuliers, en négociant des CFD avec des fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, les entreprises dont on va parler, qui ont entamé une course contre la montre pour développer un vaccin contre le coronavirus qui pourra être mis sur le marché le plus rapidement possible. On apprend ainsi sur le site financier eToro, le leader mondial des plateformes de trading, que Sanofi, entreprise pharmaceutique française, exploite les progrès qu'elle a déjà réalisés dans la recherche d'un vaccin contre le syndrome le SRAS, le fameux virus SRAS. Et quand on sait que le SRAS fait également partie de la famille des coronavirus, autre entreprise est Gilead Sciences, elle, qui travaille sur l'élaboration d'un traitement pour les patients infectés du Covid. Les études détermineront si le traitement peut ralentir l'infection et aider les patients à se rétablir plus rapidement. Autre entreprise, GlaxoSmithKline, géant pharmaceutique britannique, fournit actuellement la technologie nécessaire pour aider une société biotechnologique chinoise à développer un vaccin contre le Covid. Autre société, Regeneron Pharmaceutical, une société de biotechnologie basée à New York, développe, elle, un traitement qui pourra éviter que les gens ne contractent le coronavirus. La société affirme qu'elle pourrait être prête pour réaliser des tests sur les humains dès le mois d'août. Enfin, dernière entreprise dont on va parler, Johnson & Johnson, qui s'est associée à la Biomedical Advanced Research and Development Authority, la fameuse BARDA, Autorité pour la Recherche et Développement Avancé dans le domaine biomédical. Donc, elle s'est associée pour développer des traitements contre le Covid-19. Donc, voilà 5 entreprises dont on peut imaginer qu'elles comptent dans la période actuelle. Eh bien non, le site eToro est formel. Votre capital, écrit-il, votre capital est assujetti à un risque. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Fin de la citation. Tout ça alors que Sanofi, entreprise française, privilégie les USA pour ses premiers vaccins au motif qu'ils ont financé la recherche. Eh oui, eh oui. Et on se souvient au début de la crise de la fameuse secrétaire d'État Pannier-Runacher qui lance à la télé « C'est le moment d'investir en bourse, c'est le moment de faire de l'argent ». On a vraiment franchi un pas. Investir dans la recherche, c'est perdre de l'argent. Moins ou plus que laisser le Covid se développer. Une question d'ailleurs qui qualifie ce soi-disant nouveau monde de demain. Changer d'air, qu'ils disent. Ben nous, on préfère les changer, eux, et très, très vite. Dernier sujet de cette rubrique, connaissez-vous Jeff Bezos ? Oui. En 2026, la fortune de ce patron pourrait être supérieure au PIB cumulé de 179 pays, représentant 43,7% de l'humanité. Le PDG d'Amazon, ben oui, c'est lui, pourrait devenir le premier trillionnaire de l'histoire, c'est-à-dire un millier de milliards, d'après une étude menée par Comparison, une plateforme américaine de comparaison destinée aux entreprises. Selon les projections de celle-ci, sa fortune pourrait atteindre la somme de 1 000 milliards de dollars en 2026, donc un trillion. Un homme pourrait donc être aussi riche que la moitié de la planète. Et ben, c'est un message adressé à ceux qui hurlaient contre les syndicats et la justice dans l'affaire Amazon, les accusant de vouloir, je cite, tuer le commerce. Monsieur Bezos, avant d'être tué, a encore un peu de marge, non? Bon, ben, je vous propose là qu'on aborde la première pause musicale, on s'offre cette première pause musicale, et puis pour la rubrique argent, ben, c'est de circonstance, on va écouter le blues du businessman de la comédie musicale Starmania créée par Michel Berger, ce blues du businessman qui est chanté par son premier interprète, Claude Dubois. On l'écoute, on se retrouve juste après.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Le blues du businessman, première pause musicale de cette revue de détails. Donc on est mercredi en direct sur la radio Armada. Alors, deuxième rubrique de notre revue de détails, celle qu'on nomme les empaffés du PAF, paysage audiovisuel français. Dans le journal Marianne, sous la plume de Jack Dion, on apprend que 10 économistes ont été conviés à déjeuner le 15 mai avec le président Macron pour évoquer la crise et ses conséquences. Et oui. Et signe commun de ces invités de marque, un attachement indéfectible au libéralisme. Le thème de la rencontre, ben je le cite, hein, « Penser les conséquences économiques et sociales de la crise ». Rien de moins. Mais qui donc est venu phosphorer entre le fromage et le dessert pour préparer le jour d'après ? Daniel Cohen, professeur habitué des colonnes de l'Obs et des plateaux télévisés. Philippe Aguillon, du Cercle des économistes et du Carré macronien. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis et membre du Cercle des économistes aussi. Benoît Queuré, dirigeant du pôle innovation à la Banque des règlements internationaux. Ancien membre du directoire de la BCE, la Banque centrale européenne. Élie Cohen, donc europhile, enthousiaste et médiatique. Jean Pisani-Ferry, tête pensante du programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2017, membre du Cercle des économistes. Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique, celui qui conseille droit de Philippe. Jean-Luc Tavernier, le directeur de l'Institut national de la statistique. Et enfin, la seule femme invitée, Laurence Boone, mais ancienne conseillère de François Hollande à l'Élysée, chef économiste à l'OCDE et membre du Cercle des économistes aussi. Alors, à de rares nuances près, cette bande des 10 a jugé la mondialisation, je cite, inéluctable. Elle a salué le libre-échangisme ravageur. Elle a encouragé la circulation des capitaux. Elle a salué les traités européens. Elle a encouragé le dumping social. Elle a fustigé le coût du travail. Elle a dénié tout besoin de protectionnisme et de gestes barrières pour se protéger de la finance. Elle a dénoncé l'archaïsme de la nationalisation. Elle a tiré à boulet rouge sur l'État. Et enfin, elle a méprisé ceux qui osent contester leur Bible. L'avantage d'une telle option, c'est qu'elle a rassuré la quiétude du repas. Nul risque de prise de bec, d'apostrophe inconsidérée ou de polémique échevelée. Et vu qu'il n'y a aucune distanciation idéologique entre les membres de cette belle équipe, on peut mettre bas les masques sans risque d'être mis en quarantaine, assurément. Parlons de Roselyne Bachelot maintenant. Elle a souffert l'autre soir dans un épisode inédit de Cache Investigation dont l'équipe s'intéressait à l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes et plus précisément à la situation des infirmières qui ont perdu leur statut de pénibilité en 2010 avec, eh bien oui, le protocole Bachelot du nom de Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy, celle qui avait clamé devant l'Assemblée nationale, je la cite, hein, « L'espérance de vie des infirmières et des infirmiers à 55 ans est de 31,6 ans exactement, comme la moyenne des Françaises et des Français. Voilà les chiffres », affirmait la ministre. « Ils vous gênent peut-être, mais ce sont les chiffres de la vérité. » La journaliste lui demande alors si elle se souvient sur quelle étude l'ancienne ministre s'était appuyée. Réponse « Non, non ». Alors évidemment, l'étude a été retrouvée par l'équipe de Cache Investigation, et cette étude, c'est une note rédigée par la Caisse nationale du personnel hospitalier, dans laquelle il est notamment écrit, je cite, « La Caisse ne disposant pas d'informations sur les décès des infirmières en activité, cette étude se base sur la population résiduelle des infirmières, déjà partie à la retraite ou en invalidité. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les gens qui ont écrit l'étude disent eux-mêmes que ce tableau sur l'espérance de vie n'est pas tout à fait crédible dans la mesure où il n'y a pas toutes les données qui sont prises en compte. Bravo, Roselyne. On ne savait pas que le Covid était une forme d'amnésie pathologique. Alors, on aborde maintenant la troisième rubrique de cette revue de détails. En parlant de l'Amazonie, où les peuples autochtones, déjà affectés par une grande vulnérabilité, pardonnez-moi, sociale, économique et sanitaire, sont parmi les plus exposés à la pandémie. Au pays du populiste de droite extrême Bolsonaro, le système de santé publique est au bord de l'effondrement. Plus de 95% des lits en réanimation sont occupés et la région présente le taux de létalité le plus haut du pays. Comme redouter alors les populations indigènes déjà affectées par une autre vulnérabilité, pardonnez-moi, j'y arrive pas, sont les plus exposées à la pandémie et à ses conséquences. Certaines communautés en danger interdisent désormais l'accès de leur territoire aux étrangers, mais le sort des indigènes vivant en zone urbaine dans la pauvreté est tout aussi préoccupant. C'est en fait une véritable crise humanitaire qui s'installe. Ce mercredi, Arturo Virgilio, le maire de Manaus, la capitale, donc mercredi dernier, le maire de Manaus, la capitale de l'Amazonie brésilienne, submergée par la pandémie du Covid, a encore lancé un déchirant appel au monde. Je le cite, « Pendant des décennies, nous avons joué un rôle important pour la santé de la planète en conservant 96% de notre forêt d'origine. Maintenant, en retour, nous avons besoin de personnel médical, de ventilateurs, d'équipes de protection, de tout ce qui peut sauver les vies de ceux qui protègent la grande forêt. » Nous, donc à Armada, nous devions d'alerter nos auditeurs, et pour en savoir plus, pour soutenir, ben, il suffit de se connecter au site humanité.fr. Alors cette semaine, un important don de masse, par contre, doit parvenir en Val-de-Marne, en provenance du Vietnam, un pays qui est en concurrence avec la Chine grâce à une production de qualité. Au moment où la polémique enfle autour des stocks colossaux de masques chirurgicaux de la grande distribution, quand les soignants manquent encore de tout, c'est un nouvel acte de coopération qui s'écrit. L'Union des associations d'amitié de Ho Chi Minh Ville et l'association d'amitié franco-vietnamienne, la fameuse AAFV, ont travaillé d'arrache-pied afin de faire parvenir des masques destinés aux hôpitaux Val-Marnais, Henri Mondor et Gustave Roussy. Henri Mondor à Créteil et Gustave Roussy à Villejuif. Toute cette activité a créé un élan de solidarité extraordinaire, mais aussi beaucoup de fierté. C'est la première fois que le Vietnam aide la France, en reconnaissance du soutien populaire à la lutte d'indépendance et à la reconstruction. J'ai cité donc les mots de la présidente honoraire de l'AAFV. Voilà pour cette rubrique solidarité. Je propose qu'on s'offre la deuxième pause musicale. Et pour cela, ben, écoutons un hommage au père de la bossa nova brésilienne, João Gilberto, qui nous a quittés en juillet 2019 à Rio de Janeiro. On écoute Bossa Nova et ensuite on se retrouve pour la suite de cette rubrique détaillée.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o mar. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse. Bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, o bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizou.
Voilà, on se retrouve donc pour la suite de cette revue de détail sur la radio Armada, donc cette revue de détail du mercredi 20 mai en direct. Et la rubrique, donc cette rubrique maintenant, elle s'appelle, vous la connaissez bien maintenant, c'est « Il n'en rate pas une ». Il n'en rate pas une. Depuis le début de la crise sanitaire, nos dirigeants ont multiplié les visioconférences pour répondre aux journalistes. Mais en fait, malgré le déconfinement maintenant, c'est du plaid qui continue. Et depuis plusieurs mois, hommes et femmes politiques de la REM, hein, donc le gouvernement et le parti majoritaire, ont déserté des interviews en face à face. Une habitude qui semble durer malgré le déconfinement et qui a interrogé les équipes de Quotidien, l'émission sur la 10 le soir à 20h. Je les cite, on a comparé une interview en duplex ou Skype et une interview en plateau. Faute de pouvoir les couper à cause des décalages de son, on a compté qu'ils répondent à un tiers de questions au moins quand ils sont en duplex. Fin de la citation de l'équipe de quotidien. En fait, entre les décalages de son et les coupures à répétition, les journalistes n'ont pas d'autre choix que de laisser leurs invités parler et leurs invités se lancer dans des monologues sans pouvoir les couper ou rebondir immédiatement sur une question. Une très belle opportunité pour nos gouvernants, sans doute. Enfin, dans le même registre, les mesures sanitaires strictes lors des différents points de presse organisés par le gouvernement ces derniers mois, et dans le détail, un seul journaliste qui compilait et posait tout seul les questions de toute la presse. Là encore, et ben un bon moyen d'éviter toute contradiction, on n'invente rien. Dimanche, Emmanuel Macron était dans l'Aisne pour célébrer les 80 ans de la campagne de France pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment les combats de Montcornet, une défaite pour la France, mais un épisode révélateur pour Charles de Gaulle. Macron était accompagné par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Ce dernier déclare dans la presse « Que nous enseigne mai 1940 et l'exemple du général de Gaulle ? D'abord, face à la menace, l'État n'était pas prêt, il n'avait pas les équipements nécessaires. Pire, les gouvernements de passage avaient menti à la population crédule, leur laissant croire que la France attendait l'ennemi de pied ferme. Ils n'ont pas voulu entendre les avertissements qui, partout, prenaient la marche à la guerre. » Fin de la citation. Le parallèle avec aujourd'hui est sans masque. Pour de Gaulle, un chef ne doit pas parler en permanence, à tort et à travers, poursuit Xavier Bertrand. Il doit mener, suite de la citation, son pays d'une main ferme, sans se préoccuper de sa popularité. Telles sont les leçons que nous devons tirer de cette période, à l'image de ce que de Gaulle a fait. Fin de la citation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bertrand a tiré les leçons et que pour 2022, lui, il est fin prêt. Parlons maintenant du député Aurélien Taché, un des marcheurs historiques, qui a décidé de quitter La République en marche, déplorant que, notamment, je le cite, que l'ouverture du parti ne se soit faite que vers la droite. C'est ce qu'il a annoncé au journal du dimanche. Il continue de citer dans le journal « En 2017, j'ai quitté le Parti socialiste parce qu'il n'était pas capable de dépasser ses frontières. Aujourd'hui, je quitte La République en marche exactement pour les mêmes raisons. » C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'élu du Val-d'Oise, déplorant que le mouvement fondé en avril 2016, je cite, n'ait pas été capable de construire un corpus idéologique, de trouver des convergences avec d'autres partis ou des alliés au sein de la société. Mais il ne confirme pas vouloir rejoindre le 9e groupe en gestation à l'Assemblée, qui s'est créé donc hier, dont la création, qui a été annoncée hier, autour de députés dont certains ont déjà claqué la porte de LRM. Je le cite, toujours Aurélien Taché, « Je ne serai pas dans l'opposition. S'il faut choisir, je serai dans la majorité, car je veux être constructif et obtenir des résultats pour les Français », a-t-il insisté. Fin de la citation. En bref, quoi, il assure le bonhomme, à gauche, mais pas au point de renoncer à rester du bon côté du manche. Socialiste un jour. On aborde la rubrique suivante, la rubrique humour, que vous connaissez aussi. Alors que les restaurants doivent rester fermés et mettront bientôt la clé sous la porte, les cuisines de l'Élysée, elles, reprennent progressivement du service. Mais attention, Brigitte Macron, contrairement à Julie Gayet, résiste à la tentation et au délicieux mets concocté par le chef du président. Très attentive à sa ligne, la première dame n'a jamais été du genre à faire des écarts et aurait en effet davantage tendance à picorer qu'à se jeter à toute hâte sur son assiette. Pas très sympa pour Julie Gayet. Pour garder son poids de forme et la santé, elle grignote au déjeuner un plat léger, quelques asperges. Brigitte Macron mange également 10 fruits et légumes par jour, sans pour autant s'interdire quelques petits plaisirs, comme du fromage. Pour compléter le tout, l'ancienne patineuse artistique fait une heure de vélo d'appartement tous les jours, de la musculation, du tapis de sol. Et oui, quand elle sortait en vélo dans les rues du Touquet, photographiée par Gala, elle était accompagnée de l'inimitable Benalla. Si, c'est bien dans Gala. On comprend mieux pourquoi maintenant elle se confine en appartement. Comment évaluer la distance des 100 km à vol d'oiseau ? Voilà la question que se posent les policiers. Au micro d'Europe 1, le secrétaire national du syndicat de police Alliance, Stanislas Codon, explique pourquoi il risque d'être difficile de contrôler un tel dispositif. Je le cite, en l'absence d'outils numériques, comment évaluer la distance de 100 km à vol d'oiseau ? Vous savez, c'est la fameuse distance au-delà de laquelle personne ne peut aller en période de déconfinement. Ça ne veut rien dire, explique-t-il. Les policiers vont devoir regarder l'adresse mentionnée sur le justif uniquement sur la bonne foi des gens et évaluer à peu près la distance. Quelqu'un qui habite Marseille et se retrouve à Paris, ok, c'est clair, Il a largement dépassé les 100 km. Mais le problème se pose notamment avec les départements en périphérie de la plaque urbaine, où l'on peut largement être au-delà des 100 km et traverser des départements. Pour lui, il faudra faire preuve de, je le cite, beaucoup de discernement et de pédagogie pour expliquer que les enjeux sont avant tout sanitaires et de santé publique. Fin de la citation. Tout à fait d'accord, mais pas que. De quel oiseau parlera-t-on ? Un perdreau, qui est l'emblème de la maréchaussée, ou un pigeon, qui sera le surnom des pauvres contrevenus, sommés de payer une amende qu'ils estimeront injustifiée et en toute bonne foi ? Chacun a sa vision du vol d'oiseau. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque d'en entendre des noms d'oiseaux. Coronavirus. On va parler du Pérou, où des bouffons encouragent au respect du confinement. Vendredi dernier, ces personnages se sont promenés dans les rues de la ville de Puno, habillés en, je cite, cusilos, qui sont les bouffons au Pérou, et ce, pour appuyer les appels des médecins et de la police qui demandent le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières. Les cusilos, donc ces fameux bouffons péruviens, racontent généralement des histoires associées au bien et au mal qui peuvent arriver dans la vie d'une personne ou aux conséquences divines et démoniaques qui peuvent suivre. Et alors, chers amis, des bouffons avec masque qui se promènent dans tout le pays qui racontent des histoires, ça ne vous dit rien ? Mais si, mais si. Covid toujours, mais aux USA. Depuis que le port du masque a été conseillé pour freiner la pandémie de coronavirus, deux hommes ont revêtu une cagoule du Ku Klux Klan pour se protéger en faisant leurs courses. Jeudi même, un homme a été surpris dans un supermarché de la ville de Dillon, dans le Colorado, portant la cagoule de la fameuse organisation terroriste suprématiste blanche, le KKK. À l'aide des vidéos de la caméra de surveillance, la police du Colorado cherche à identifier l'homme en retrouvant son véhicule. Je cite la porte-parole de la police au journal local, « Les policiers essaient de l'identifier, de le contacter et de l'arrêter à partir de ça. Nous prenons ce genre d'acte très au sérieux. » Fin de la citation. Et oui, au pays de Trump et de l'eau de Javel en guise de médicaments, ça ne surprendra presque plus personne. Mais imaginez chez nous Zemmour, par exemple, avec un keffier palestinien en guise de masque sur le visage. Eh bien non, je crois qu'on préfère ne pas l'imaginer. Voilà, c'est la fin de cette revue de détails. Et on finit toujours avec un hommage aux soignantes et aux soignants, avec la chanson « À cause de Macron », cette chanson qui a occupé toutes les rues, les salles, les gares avant le Covid. On l'écoute et puis je vous dis bonsoir à mercredi prochain, même heure sur Radio Armada.
À cause de Macron. Tu déconnes, on se laisse pas faire, tu nous prends toutes pour des connes. Ton sale plan en retraite nous jette dans la précarité. Ta retraite à point n'aime pas les petits jobs en pointillés. Moi, tu vois, je veux être autonome. À cause de Macron, c'est la chute des pensions. On voit tout et Marion. À cause de Macron, grande perdante nous serons. Faut te dire sur quel ton. À cause de Macron, on crie révolution. À cause de Macron. À cause de Macron. La déprime, c'est le mot qui vient quand je pense à mes copines. En mode gilet jaune, vénère, pour nous c'est la galère. J'hallucine, pour nos gosses en trim, ça vaudrait pas un centime. Fais ton film, mais la lutte, oui, c'est notre style. Ah, à cause de Macron, la croque prend nos pognons. Capitalisation. À cause de Macron, ma moitié meurt, c'est con. Moins de pension, de réaction. À cause de Macron, on aura moins de ronds. À cause
Macron.